Passagem de nível com Arthur Silva.
Muito tarde, cá estamos nós neste domingo, dia 10 de julho, é a última emissão da temporada, que fica o sumário. Vamos começar por falar das comunidades portuguesas, depois da reunião do Conselho Permanente do CCP, que esteve em Lisboa durante 3 dias e teve encontros com membros do governo, igualmente com deputados. Continua a circular uma petição que é endereçada ao Presidente da República, Emmanuel Macron, mas não só, para a salvaguarda do ensino de português no âmbito do currículo escolar francês. E, paralelamente, uma professora fez uma carta aberta aos deputados franceses para que, precisamente, possam interferir no sentido de manter aqui em França a língua portuguesa. E várias sugestões para as férias, leitura de banda desenhada com 2 autores luso-descendentes à procura das suas raízes e depois um convite para irmos ver uma exposição de pintura Modernité Portugaise na Maison Caillebotte em Herne, Departamento 91, que vai estar patente ao público até dia 30 de outubro. Mas começamos a emissão por falar do CCP, como eu disse, cujo Conselho Permanente esteve reunido em Lisboa, segunda, terça e quarta. Que balanço global e que conclusões? As explicações de Pedro Rúpio, Presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas da Europa.
A primeira conclusão é que a rede consular vai ficar na mesma situação e não creio que vai haver grandes melhorias nos próximos tempos. É claramente um tema que foi constantemente falado e uma informação que foi veiculada junto do Secretário de Estado das Comunidades, junto do Ministro dos Negócios Estrangeiros e junto dos diferentes grupos parlamentares. Obviamente também com o Sr. Presidente da República. Mas aquilo que nos foi dito é que a grande prioridade para tentar colmatar essa dificuldade é de apostar na digitalização dos serviços consulares, algo que será começado a ser mais trabalhado em 2023 e apontaram como o ano de 2027 para finalizarem toda essa iniciativa de digitalização dos serviços consulares. E, portanto, veremos, então, como é que as coisas irão evoluir a partir desse momento.
Ora, Pedro Rúpio, concretamente, vocês fizeram 7 número de pedidos, mas comecemos pelo princípio, que é a modificação da lei eleitoral do CCP.
Sim, como já devem saber, nós em 2020 tínhamos acertado com a antiga Secretária de Estado uma data para as eleições do CCP, que era, salvo erro, outubro ou novembro de 2020. Entretanto, a senhora Secretária de Estado, a antiga Secretária de Estado, anunciou-nos que queria avançar com um teste piloto de voto eletrónico. Uma ideia que, obviamente, acolhemos muito favoravelmente, porque é uma reivindicação do CCP e das comunidades portuguesas há largos anos, até porque consideramos que é a melhor das alternativas para fomentar a participação cívica das nossas comunidades, não é? E, portanto, aceitamos esse desafio e aceitamos prolongar o nosso mandato um pouco mais de tempo. Depois houve alguns atrasos, e nomeadamente o chumbo do orçamento do anterior governo, que levou a mais um adiamento de todas estas questões. Porque não se trata só do voto eletrónico e do teste piloto, trata-se também da implementação do recenseamento automático na diáspora, que fez que o universo eleitoral mudou radicalmente, de 300 mil eleitores passamos para 1,5 milhão, e também sabendo que há aqui uma nova realidade em termos de eleitores por continente, por país, que deve ser também revista na lei eleitoral, na lei do Conselho das Comunidades. E também, sem esquecer que há uma série de recomendações que foram feitas pelo CCP já em 2019 para que houvesse uma mudança da lei, e uma delas é a questão da consulta obrigatória. Posso já informar que o grupo parlamentar do Partido Socialista informou-nos que para já iria avançar com um projeto de lei muito proximamente e que esta questão irá ser, os debates irão ser iniciados já em setembro a outubro, e que consta na proposta do Partido Socialista fazer com que o CCP seja automaticamente, ainda não sabemos bem, mas seja consultado obrigatoriamente em determinadas áreas ligadas às comunidades portuguesas. E, portanto, agora voltando mais diretamente à sua pergunta, sim, a lei eleitoral vai então ser avançada, esperamos nós o mais depressa possível, de forma a permitir que haja eleições do CCP no primeiro trimestre de 2023 ou no primeiro semestre de 2023.
Paralelamente, vocês pediram um aumento do número de conselheiros de 80 para 100.
Sim, precisamente porque, como acabo de dizer, há um aumento do universo eleitoral que quintuplicou desde a anterior eleição ao CCP e, portanto, o aumento de 80 para 100 parece-nos uma forma moderada de reconsiderarmos esse universo eleitoral e até porque há países que hoje não são representados, países esses que observaram um aumento bastante significativo de emigrantes e, portanto, há que colmatar essa nova realidade.
Sim, mas isso implica não só a alteração da lei eleitoral, mas provavelmente mesmo a nível da Constituição, ou não?
Não tem nada a ver. O Conselho das Comunidades Portuguesas não está...
Não, sim, eu estou a falar relativamente ao aumento do número de deputados para a Assembleia da República.
Ai, desculpe, eu agora pensei que estivesse a falar do número de conselheiros.
Não.
Como estávamos a falar do CCP. De facto, também essa foi das questões que foi falada constantemente com todos os interlocutores, de observarmos finalmente um aumento do número de deputados eleitos pelos círculos de imigração. Para isso não é preciso não sei se será necessária uma revisão da Constituição para irmos nesse sentido, ainda não estudamos essa questão, mas o que é certo é que há 48 anos que não mexemos no número de deputados eleitos pela imigração, são 4 desde 1976, e isso para já não é, não corresponde à realidade das comunidades portuguesas, porque se nos anos 70 se falava em cerca de 2 milhões de portugueses residentes no estrangeiro, hoje fala-se mais em 5 ou até 6 milhões de cidadãos que têm o cartão de cidadão e com morada no estrangeiro, e portanto há que ter isso em consideração na nossa mente, até porque há agora uma garantia de que a lei eleitoral vai ser revista proximamente para colmatar outras falhas que foram identificadas a quando da repetição das eleições no círculo da Europa nas últimas legislativas. E, portanto, 4 deputados para vários milhões de compatriotas não nos parece ajustado e claramente que teríamos mais peso político. Há questões que certamente que já não iriam não passar tão despercebidas como agora, com uma representação maior da diáspora no Parlamento e até porque é incentivador à participação cívica. Nós, quando vamos para eleições no círculo da Europa e sabemos à partida que vamos ter automaticamente um deputado eleito pelo PSD e outro pelo PS, claramente que não é a mesma motivação de que um eleitor em Portugal que sente que o seu peso tem mais peso. É um voto que conta mesmo.
Será que finalmente a questão do voto, porque sabemos que nas últimas eleições o escrutínio na Europa foi anulado, a famosa fotocópia do cartão de cidadão, isso foi abordado?
Sim, claramente, e até ainda estamos numa fase em que foi difícil receber alguma informação mais concreta. Sabemos, por exemplo, que o grupo parlamentar do PS quer dedicar-se de tal forma que já não seja necessário enviar a cópia do cartão de cidadão. Sabemos que o grupo parlamentar do PSD também quer evitar todos os incidentes que tivemos nas últimas eleições nas últimas eleições legislativas, mas aí não conseguimos saber de que forma. Mas claramente foi um assunto que foi falado por muitos. Acho que é a grande prioridade quando se fala na revisão da lei eleitoral. Não nos parece que haverá vontade de mexer no número de deputados eleitos, mas claramente que todos querem evitar que haja repetição de eleições no, nos círculos da imigração. Portanto, quero acreditar que os nossos decisores políticos vão fazer aquilo que é necessário para emendar essa situação.
Pedro Rúpio, uma última questão. Paulo Cafofo, secretário de Estado das Comunidades, admite, cito, ser difícil ou fosse de recursos humanos nos consulados antes do próximo orçamento de Estado. O que é que isso pode significar?
Sim, é isso que eu disse inicialmente. Não entendemos que haverá, a curto prazo, uma revolução na rede consular, a revolução que seria necessária haver para não termos alguns consulados em que simplesmente não é possível conseguir uma marcação, como é o caso em Bruxelas, como creio ser também o caso
aqui em Paris,
ou foi recentemente o caso, pelo menos, e em tantos outros consulados da Europa e do mundo. Portanto, isso não deverá operar-se a curto prazo. A grande aposta é a digitalização dos serviços consulares. Também nos foi dada a garantia que isso é extremamente importante, que as pessoas com menos competências digitais não serão esquecidas e terá que se pensar no modelo para que essas pessoas nunca deixem de conseguir os papéis que precisam, a documentação que precisam, mas de facto essa é a grande aposta, a digitalização dos serviços consulares, e o Sr. Secretário de Estado remeteu para o ano a possibilidade de melhor negociar com o Ministério das Finanças algum desbloqueamento de verbas que permita aumentar o número de funcionários, que permita aumentar salários, porque também é muito importante. Há funcionários que com aquilo que recebem não conseguem ter uma vida normal nos países onde estão inseridos da rede consular, e isso também é um tema que deve ser tratado com prioridade.
Pedro Rúpio, muito obrigado e vamos estar atentos a essas questões todas.
Obrigado, foi um prazer. Até breve.
Pedro Rúpio, como eu disse no início, o presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa. Ora, curiosamente, e a imprensa normalmente quando as coisas se passam também falam nisso, não houve uma única palavra para a situação do ensino da língua portuguesa no estrangeiro, a língua portuguesa no estrangeiro, chamado EPE. E precisamente para nos falar da situação da língua portuguesa aqui em França, temos o secretário-geral da ADUPBA, António Oliveira. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco. Curiosamente, então, o Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas esteve reunido 3 dias e o ensino de português passou-lhes ao lado. Como é que compreende isso?
Eu acho isso lamentável. Sobretudo, nós lançamos uma petição no 10 de junho. Portanto, esta petição já foi assinada por mais de 6.380 pessoas.
6.382 pessoas, isto números que datam das 11 horas e 27 de hoje.
Exatamente. Portanto, não se compreende que os conselheiros, sobretudo, portanto, que estiveram em Portugal, que não tivessem duas palavras para tratar do assunto. Quer dizer, eu acho isso lamentável e inadmissível.
Ora, precisamente a propósito dessa petição, um pouco mais tarde, e por volta das 12h40, teremos a ocasião de falar com a professora Martina Fragoas. Penso que ela também está na iniciativa desta petição endereçada ao presidente Emmanuel Macron, mas igualmente aos ministros da Educação e do Ensino Superior e da Investigação. Ora, vocês, a nível da ADPBA, têm uma visão de conjunto da situação da língua portuguesa em França, concretamente na novela Aquitaine. Depois vamos ver isso com a Martim de Fragoas. Mas que balanço nós podemos fazer? Bom, acabou um ano letivo, a reforma do BAC e igualmente do Liceu está aí, foi aplicada. Como é que nós podíamos apresentar a situação da língua aqui portuguesa?
Sim, portanto, a minha colega pode falar, vai falar mais em pormenor sobre a petição, porque ela está na iniciativa e ela lançou, portanto, ela faz parte do membro do Conselho de Administração da DPBA, foi aprovado, evidentemente, por nós todos, pelo Conselho, estamos plenamente de acordo, foi por isso que a DPBA lançou esta petição. Portanto, o balanço é que eu penso que a reforma do Liceu não é favorável ao ensino do português, sobretudo na segunda, com a aprendizagem da LVC, que era tanto a antiga LV3, portanto, que é estudado unicamente como uma opção e embora haja a possibilidade de poder, em première, escolher passar para a LDP, mas depende de... depende do diretor, quer dizer, se permite ou não. Portanto, isso foi uma perca, porque antigamente, enfim, os alunos escolhiam no liceu a LV3 e depois podiam escolher no BAC, passar para a LV1, aí ganhavam pontos com o coeficiente, etc. Portanto, para nós o balanço é negativo, portanto, não veio nada a favorecer o ensino do português. Depois há uma outra questão, que é uma questão de meios. Eu penso que o problema do ensino é mais uma questão de meios. É que o português, evidentemente, está em rivalidade com outras línguas num estabelecimento. Portanto, está em rivalidade com, sobretudo, o italiano, o alemão. E, por vezes, para salvaguardar o alemão, por exemplo, ou o italiano, a escola vai optar por não introduzir uma nova língua, ou por não dar meios a essa língua. O português sofre de uma falta de meios que vem do reitor lá, porque é tudo uma questão portanto, a escola ou tem meios ou não tem. Se o reitor lá não der os meios, evidentemente ela não pode desenvolver o ensino da língua, e eu penso que o problema está aí. Quer dizer, por vezes não é uma questão de discriminação, eu penso nem, enfim, pode haver, mas isso não é o problema, é uma questão de meios, é falta de meios.
Mas, António Oliveira, temos o caso aqui na região parisiense, onde o chinês aparece. Por exemplo.
Sim, depois há uma questão evidentemente, dos países que são... que fazem pressão ou não fazem, quer dizer, é toda uma, é por isso que politicamente é importante que o governo português implique, que seria bom que tivesse um contacto com o novo ministro. Eu penso que é a ocasião de lançar há acordos bilaterais entre Portugal e a França, e portanto seria ótimo que eles se encontrassem, porque o protocolo nem sempre é respeitado. E é isso, é esse o grave problema. Portanto, era dar mais meios para que se recrute mais professores, porque sem professores não se pode desenvolver um ensino, e depois é dar mais meios para que o ensino possa ser desenvolvido nas escolas, porque sem meios não é possível.
Mas, António Oliveira, realmente dado, bom ouvir dizer, penso que não estou longe da verdade, um certo número de professores de português foram empurrados, entre aspas, para lecionarem o espanhol. Aconteceu isso ou não?
Isso aconteceu, mas já foi há uns anos.
Já foi
há uns anos atrás, que muitos efetivamente tiveram que mudar, infelizmente, ou era professor de espanhol, ou então iam para o documentalista. Portanto, isso aconteceu, mas isso já foi há uns anos atrás. Atualmente recrutou-se até alguns professores, ultimamente, chegaram a ser recrutados por via interna ou externa. Mas o problema é que depois esses professores estão em várias escolas, podem estar em duas, três escolas, e isso não favorece nada o desenvolvimento. Quando o professor não está presente numa só escola, não pode desenvolver-se. Se andar sempre a correr para duas, três escolas, como é que ele se pode empenhar nessa escola, etc.
Sim, estar inserido também no corpo com o corpo docente, com os outros professores. Isso,
portanto, isso é na escola primária. Na escola primária, efetivamente, nós, portanto, preconizamos que o ensino seja integrado como é o inglês, que seja dado a todos os alunos e durante o horário escolar. Atualmente o que acontece é que a maior parte das aulas são dadas fora tanto do horário escolar, ou à quarta-feira à tarde, ou ao sábado, etc. E evidentemente que isso é preciso que os alunos estejam bastante motivados e, portanto, quer dizer também que só são reservados praticamente os alunos de origem portuguesa, porque quem é que vai aprender o português à quarta-feira à tarde ou à sábado de manhã? Portanto, são aqueles que são de origem, e o português, nós pensamos que o português não se destina unicamente aos alunos de origem, mas a qualquer aluno que queira aprender o português como uma língua internacional, como queira aprender o inglês, o alemão, etc. Porque se nós condenarmos o ensino do português unicamente aos alunos de origem, estamos a condenar o ensino, porque cada vez há menos alunos de origem, enfim, portanto não é esse o objetivo. O nosso objetivo é de ensinar como língua internacional.
Então, de Oliveira, há 3 anos atrás a ADUPBA tinha lançado já uma petição e aparentemente foi uma pequenina vitória
obrigatória, na medida em que a especialidade está a ser proposta a título experimental em 4 academias, isto durante 2 anos. Um ano já lá vai, penso eu. De maneira que, bom, ora, esse acordo foi obtido, penso eu, para a região Ile-de-France e para a Guiana, é isso?
Sim, mas quer dizer, eu penso que isso não é bem assim, quer dizer, foi um fracasso, porque efetivamente estava previsto, tem razão, para 4 academias, que era Créteil, Versailles, Paris e a Guiana. Só que o que aconteceu é que só abriu na Academia de Créteil, só está a ser lecionado em Pontacombo, com poucos alunos, e portanto, para mim, eu penso que foi um fracasso, porque devia ter aberto nessas 3, pelas 4 academias, por exemplo, na Guiana existe, em Pontacombo, mas não existe em Paris ou na Academia de Versailles. E portanto, e só um liceu é impossível, quer dizer que os alunos são obrigados a se deslocar, aqueles que quiserem, da Academia de Créteil, por exemplo, para se inscreverem em Pontacombo, para seguir esse. Portanto, devia de existir não somente em 3 academias, mas em mais academias e em mais liceus, não somente num liceu. Imaginamos só um liceu na Academia de Versailles. Versailles, que é uma academia enorme, quer dizer, os alunos são obrigados a se deslocar. Portanto, quer dizer que estamos a condenar a especialidade. Bom, embora a especialidade não é escolhida por muitos alunos, são aqueles alunos mais literários que querem aprofundar o ensino da língua e da literatura, essa é uma verdade. Mas na realidade eles deviam ter essa possibilidade, e atualmente essa possibilidade não existe. Não existe.
Ora, uma pergunta, o embaixador de Portugal, e não só, os embaixadores dos POLOP e um certo número de associações, entre outras a vossa, a ADPBA, tinham criado uma estrutura para interpelar as autoridades francesas, mas no meio disso tudo, ao governo português. Ora, há acordos, há protocolos de acordo, bom, é verdade que temos agora 2 novos ministros da Educação. Será que vocês, enquanto que a Associação de Defesa da Língua Portuguesa aqui em França, interpelaram o governo português? Há respostas da parte deles? Não há?
Sim, portanto, a DPBA fazia parte dessa comissão. E efetivamente alguma coisa foi alcançada, até aliás foi lançada uma campanha de promoção na escola primária, também está previsto uma promoção para um público mais alargado, quer dizer, secundário, mas o embaixador fez muito, ele interpelou o ministro francês, mas por parte portuguesa, provavelmente que ele também interpelou o governo português, mas eu penso que com os novos ministros, eu penso que está no momento oportuno, e nós, evidentemente, a DPBA através desta petição, vai e deve interpelar o ministro português da Educação, do novo governo, porque eu penso que está na altura deles se reunirem, e evidentemente que isto é só a nível político é que se resolve, quer dizer, é uma vontade política. É o caso do alemão. O alemão estava quase a desaparecer. Então, lembra-se quando foi o Chirac e ele impôs que o alemão, enfim, que se desse os meios para o alemão. Portanto, é uma questão de vontade política, é o que eu digo, é uma questão de vontade política e de meios. É só os dois governos que quererem e dar, não basta querer, é preciso também dar os meios para isso.
Bom, isso significa também, talvez seja necessário levantar a questão a nível da Assembleia da República. Ora, atualmente os 2 deputados são do Partido Socialista, o único partido que está no poder, não é? Ainda por cima, uma das eleitas é aqui de França, Nathalie Oliveira, para não. De maneira que, bom, será que vocês contam em interpelá-los no início do mês de setembro, ver como é, que eles façam questões diretamente ao governo, endereçadas ao ministro da... agora é o problema, endereçadas a quem? Isto ainda é outro problema da língua portuguesa no estrangeiro, porque depende do Camões. O Camões depende do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas, quer dizer, bom, é verdade que voltámos, antigamente era o Ministério da Educação. Este assunto da língua portuguesa no estrangeiro não deveria ser da alçada do Ministério da Educação?
Quer dizer, eu penso que sim, efetivamente, mas o que nós queremos é que seja eficaz, quer dizer, que a política, que as medidas tomadas sejam eficazes. Portanto, talvez, efetivamente, com o Ministério da Educação fosse mais fácil. Mas, bom, isso é uma questão, eles é que devem resolver. Nós o que queremos é que haja eficácia no terreno. E, evidentemente, que os 2 deputados foram interpelados, e eles estão ao corrente desta petição que foi lançada, o Paulo Pires, com a Nathalie de Oliveira, elas estão plenamente ao corrente, e portanto nós evidentemente já os interpelamos, mas temos que os interpelar aparentemente mais, porque quando se sabe que o Conselho Permanente nem sequer focaliza esse problema, quer dizer, essa problemática em Portugal, portanto isto é inadmissível e também eu penso que os dois deputados devem colocar estas questões ao Governo, como é óbvio, e evidentemente nós vamos relançar e interpelar mais uma vez os dois deputados.
Aliás, quando nós recebemos aqui o novo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo, bom, é verdade que ele tinha acabado de chegar e por aí fora, os dossiês, bom, ainda está a estudar, ainda está a dar-se conta da situação, mas quando se fala de língua portuguesa, eu me recordo bem da resposta que obteve, é que estão a ser esforços, há mais professores, há toda uma série de coisas, aparentemente as coisas iriam no bom sentido, mas enfim...
Bom, por Portugal, normalmente, quer dizer, eles recrutam os professores para a escola primária. Houve um pequeno aumento, mas mesmo assim, não, eu penso que ainda não é suficiente, mas está no bom sentido. Mas nós aqui, nós não nos limitamos unicamente ao ensino da escola primária. Nós portanto, o ensino da escola primária até o ensino universitário.
Superior, mas...
Exatamente. E, portanto, aqui, a questão é que deve ser uma questão abrangente. Eles devem preocupar, evidentemente, com o ensino da escola primária, porque isso está no recrutamento, está no protocolo e deve recrutar professores, mas também deve interpelar o governo francês para que o governo francês cumpra o seu protocolo, que é recrutar professores para o ensino secundário, é dar meios para que o português possa desenvolver no ensino secundário, e portanto, aí os dois governos devem se interpelar mutuamente portanto, devem unicamente cumprir e dar meios para que o português, enfim, possa se desenvolver, manter e sobretudo, se desenvolver.
Ora, no que tem respeito ao ensino primário, isso diz respeito à coordenação do ensino, portanto, o governo português, ao que parece, haveria pelo menos mais dois ou três professores novos. Bom, mas enfim, teremos que esperar pelo mês de setembro. Uma última pergunta, António Oliveira, eu lembro, secretário-geral da ADUPBA, talvez seja cedo para falar disso, mas enfim, já um tema para o próximo concurso escolar?
Ah, para o ano, eu penso que não vai haver concurso escolar, porque para o ano são os 50 anos da associação, e nós estamos a pensar talvez em fazer, sei lá, les assises, como se diz, do ensino português em França, justamente, será a oportunidade de fazer o balanço. Eu penso que vai ser isso, o tema vai ser Lisa Cis, e estamos a pensar como organizar isso por volta do mês de abril, enfim, porque é quando a associação completa os 50 anos. E eu penso que é importante pararmos para ver o que foi feito e o que há para fazer. É isso.
António Ribeiro, é um bocadinho o princípio da passagem de nível, para escute e olho.
Exatamente.
António Oliveira, muito obrigado, boas férias e...
Obrigado.
E damos em conta no mês de setembro, precisamente para fazer a situação, ou teremos provavelmente pelo final do mês de setembro, para fazer um bocadinho de balanço daquilo que se passa no ano letivo 2022-2023.
Obrigado. Altura. E bom domingo a todos.
Muito obrigado, António Oliveira. Lembre-se, secretário-geral de ADUPBA. Estamos aqui ao Direto Passagem Nível neste domingo, dia 10 de julho. Vamos continuar a falar do ensino da língua portuguesa aqui em França. Há instantes tivemos António Oliveira, secretário-geral da ADUPBA, para nos dar o ponto de vista de que se passa aqui em França. Agora vamos até ao terreno, e é muito importante, na medida em que os portugueses residentes na região Ile-de-France queixam-se muito, mas na província o deserto ainda é muito maior. Senhora Martim de Fragoas, antes de mais, muito boa tarde.
Boa tarde, já é tarde, o tempo passa depressa. Sim, estou a falar em direto da Nouvelle Aquitaine.
Nouvelle Aquitaine.
Para mim é Nouvelle Aquitaine.
Exatamente, eu já ia até lá, precisamente, ora, lembro, enseignante à Igreja de Português, membro do Conselho de Administração da ADUPBA, igualmente do Coletivo pela Defesa da Língua Portuguesa na Nouvelle Aquitaine. Ora, Sr. Fragoas, eu penso que também esteve na origem desta petição endereçada ao Presidente Emmanuel Macron e aos ministros ministros da Educação e do Ensino Superior. O objeto salvaguardar é desenvolver o ensino da língua portuguesa no sistema educativo francês. Penso que vocês aí da Nouvelle Aquitaine têm exatamente o exemplo daquilo que não deve ser feito.
Eu queria referir, informar que já é a segunda vez que lançamos uma petição através da ADUPBA em 2019 e resultou. A primeira petição resultou, criou-se o ensino de português de especialização em certas academias, portanto a nossa petição abrange todo o território nacional, mas aqui em Bordeaux ou na Nouvelle Aquitaine a situação é péssima, sem Bordeaux ou na região de Bordeaux ainda há ensino de português. Eu estou a ensinar há 30 anos e tenho visto diminuir cada vez mais. E há zonas como em Pau, onde antigamente havia ensino de português, em que não há nem uma aula, nem na primária, nem no colégio, nem no liceu. No entanto, há uma comunidade portuguesa muito grande. Claro que o português não é só para a comunidade portuguesa, mas também os portugueses podem pedir aulas de português no colégio e têm que se juntar. Por isso é que lancei esta petição, dá para agir, fazer pressão e ao mesmo tempo se informar. Muitas vezes as pessoas nem sabem que existe ensino de português em certas regiões, como em Toulouse, em Albi, onde eu vivi muitos anos. Eu nunca estudei português no ensino oficial francês, só estudei a partir do ensino superior, na faculdade, na Lettres Sup, no liceu. Não sei se respondi à sua pergunta.
Sim. Falou de Pau, mas podíamos alargar isso, no departamento de Dordogne. Região de Pau, de Bayonne, mesmo na La Rochelle, etc, etc. Mas há algo que eu gostava de abordar, é que, por exemplo, isto é concretamente, isto faz parte de uma... Depois já iremos falar da carta aberta que endereçou ao deputado da sua circunscrição onde reside, e depois também vamos lançar um apelo aos nossos ouvintes, e não só, precisamente para que façam igual relativamente aos deputados na zona onde eles residem. Passo a ler. A inspeção académica tinha previsto uma abertura no Colégio Zonzé, se não para a rentrée 2021, mas nada foi feito. Ora, quando se fala de Zonzé, é muito importante porque foi um grande, grande senhor que, aliás...
Exatamente, que introduziu o ensino do português nos liceus.
Mas concretamente aqui na Faculdade de Letras de Paris, foi isso?
Exatamente. E até tinha um projeto para introduzir o ensino do português no liceu. Houve um artigo de Jacqueline Panjon que escreveu acerca disso, a história do ensino do português em França.
Ora, quando falamos nisso, precisamente do ensino, bom, mas há outro ensino muito importante também, e sabemos que há muitos jovens de origem portuguesa que vão fazer esse tipo tentar obter esse tipo de diploma, querem vir ao BTS. Podemos dizer que relativamente ao BTS a situação ainda é pior que no resto do ensino?
Não é pior, é igual. Só que o BTS, os jovens têm a possibilidade de apresentar provas facultativas e quando sabem falar português, apresentam-nas e até conseguem muito bons resultados. O que é pena é nunca ter estudado a língua portuguesa. Agora, há um grande engano. As pessoas pensam que se sabem falar português é o suficiente. Falar é uma coisa, agora, para construir uma boa aprendizagem de uma língua é necessário saber escrevê-la. E a língua escrita é diferente da língua falada. Onde é que se ensina a língua escrita? Não é na família, é normal. Portanto, era necessário haver aulas para aprender a redigir cartas comerciais, como é que se faz um CV em português, todos os pedidos na escrita, e isso só um professor de português é que pode ensinar. Foi flagrante aqui em Bordeaux, houve 70 candidatos, quase 70 candidatos de BTS, de todos os BTS, há imensos, não é? Apresentaram provas facultativas, porque é possível, mas nunca tinham estudado português, nem sequer tinham visto, nem sabiam que existia um professor de português. E eu tenho pena porque deparo-me com estudantes, alunos, eu já estou a avaliar e nunca ensinei. É curioso um professor só estar na parte da avaliação sem ter ensinado. Um professor primeiro ensina e depois avalia, não é?
Ora, Martina Fragoso, algo importante é porque tem que haver uma continuidade no estudo da língua, tanto a primário, secundário e por aí fora. O exemplo concreto que dá, na carta que endereçou ao deputado Alain David, que é o deputado da 4ª Circunscrição da Gironda, diz concretamente que nenhum colégio público em Bordeaux propõe a continuidade do estudo português no secundário, apesar de haver um grande número de alunos e de pais de alunos interessados.
Agora, a dificuldade é reunir pessoas e juntar pessoas. Por exemplo, na escola onde estuda o meu filho, em Frohat, há muito poucos alunos de português na primária. Porquê? Porque as aulas são propostas das quatro e meia às seis, à sexta-feira, numa escola. Portanto, os alunos vêm de várias escolas. Portanto, o meu filho, por exemplo, vem da escola Louis Aragon e vai para a escola Pierre Marie Curie. Para ele assistir às aulas, é preciso ir buscá-lo às 4h30 da tarde, levá-lo à escola Pierre Marie Curie e depois ir buscá-lo às 6h. Quem são os pais que podem fazer isso? É preciso uma grande disponibilidade. E muitas vezes há muita gente interessada, mas há uma impossibilidade em seguir as aulas em relação à organização. Portanto, era necessário as pessoas exigirem que as aulas, por exemplo, sejam dadas à quarta-feira, a melhor oportunidade. Agora, eu sei que há também pais que querem fazer tudo, que dizem, ah, ele não pode fazer português porque tem equitação, ou piscina, etc. As pessoas têm que escolher e fazer pressão para terem aulas num período adequado para estudar línguas. E até se fosse integrado no currículo das escolas primárias francesas, ainda era melhor.
Sim, mas para isso é necessário que os diretores das escolas, tem noção que até o mês de março, início de cada ano civil, há uns questionários, não é? E precisamente esses questionários têm que circular e onde possa haver também uma certa abertura para o português. Agora, há muitos diretores de escola que não querem ter mais um quebra-cabeças, não é?
Exatamente, exatamente. É mais uma dificuldade, mais uma coisa para organizar. Portanto, por isso é que muita coisa pode vir dos pais. Os pais podem dar um apoio, mas também serem muito exigentes. Por exemplo, eu dou um exemplo. Na escola onde estuda o meu filho, apareceu aquelas fichas de inscrição para o ano que vem, para inscrever os filhos. A escola recebeu a 9 de maio e as fichas tinham que ser entregues a 13 de maio à inspeção académica. Muito pouco tempo. Portanto, só quem está muito atento, muito disponível, é que responde. E eu nem sequer respondi, não tive tempo, e depois apareceram poucas inscrições. É assim que, com dificuldades, com falta de um pouco negligência, é que aparecem poucos pedidos, não sei se está a perceber. As coisas são feitas, mas com... E claro, é mais um quebra-cabeça para um diretor de escola, é mais uma responsabilidade, e quando tem muito ou dificuldades, claro, quem é mais desaparece. Que é o caso do ensino da língua portuguesa.
Mas me permita, isso sou eu que assumo perfeitamente como jornalista, tudo isso é feito de propósito, acho eu, não, as coisas não caem do céu, ainda que os diretores das escolas estão completamente também ultrapassados para tudo aquilo que se passa, falta de professores e não só, de substituir, falta de meias, bom, isso diz respeito mais, digamos, à educação nacional no seu todo, não é só em França, mas em Portugal.
Exatamente.
Também há grandes dificuldades.
Exatamente, é uma situação geral de dificuldade, escassez de meios, e não acho que seja feito de propósito, com estratégia, porque isso acontece com as outras línguas. A língua árabe não é mais ensinada que a língua portuguesa, nem, e também devia ser. Portanto, não acho que seja discriminação ou coisa estrategicamente organizada. Agora, há, se calhar, desleixo, falta de meios, falta de vontade. Agora, quem tiver mesmo vontade que os filhos estudem, tem que se mexer.
Ora, curiosamente, não sei, bom, se é ironie de l'histoire, como dizem os franceses, até o mês de outubro está a decorrer a temporada franco-portuguesa. Bom, há centenas e centenas de iniciativas à esquerda, à direita e por aí fora, numa altura igualmente em que a França e Portugal estão muito próximos relativamente à Europa e tudo, portanto, um intercâmbio económico e cultural, e no meio disso tudo,
a língua portuguesa parece que está ausente destas questões, apesar de haverem protocolos de acordo entre os dois países. Como professor e que vive a situação concretamente, nomeadamente na novela Aquitaine, dá para refletir, não?
Eu fico muito triste, porque fico muito contente por existir a temporada França-Portugal, uhum. Até com os meus alunos participei num projeto, mas realmente sem a língua não há cultura e sem cultura não há língua. E de facto na newsletter da temporada diziam que os professores podiam levar os seus alunos aos museus. Acho que sim, muito bem, mas tenho muita pena, mas dentro em breve não haverá professores de português para ensinar a língua e a cultura. E os dois vão juntos, porque uma língua sem cultura é uma casca vazia e uma cultura sem a língua portuguesa perde a sua identidade. Portanto, claro que é ironia de l'histoire, há um paradoxo, de facto, uma contradição, e eu estou com vontade de escrever uma tribuna na imprensa francesa a fazer ressaltar esta contradição, não é, da história.
Incoerências, não é?
Incoerência, uhum. e tristeza também, porque de facto essa situação teria mais visibilidade se houvesse mais gente a estudar a língua portuguesa.
Ora, Martim Fragoso, aliás, esteve há poucos dias na Clé des Ondes, que eu tive a oportunidade de visitar e isso tudo. Bom, portanto, é uma estação da rádio bastante importante aí para a comunidade. Mas será a minha última pergunta, e agora à volta, precisamente dessa carta aberta ao deputado pela 4ª circunscrição de La Gironde, Monsieur Alain David. Precisamente, tem a impressão que lançou este apelo. Será que ele já lhe disse alguma coisa, deputado, ou ainda não?
O deputado ainda não respondeu, mas tenho bastante confiança, porque em 2019 ele respondeu, até fez um question ao governamento, uhum. O nosso ministro Jean-Michel Blanquer até respondeu, portanto acho que é uma questão de tempo, confio bastante porque ele sempre atendeu aos nossos pedidos. Por enquanto ainda não respondeu, mas em setembro vamos novamente mandar cartas ou informar. E acho que é importante todas as pessoas em França fazerem o mesmo através do Parlamento, não é? Chamar a atenção. Há um grupo, Alain David faz parte de um grupo França-Portugal.
É o grupo de amizade parlamentar, com efeito.
Exato. Portanto, eu acho que é só uma questão de tempo.
É tanto mais que há um certo número de eleitos na Assembleia Nacional Francesa que são de origem portuguesa, não é?
Exatamente. E nesse grupo France-Portugal, do qual Alain David faz parte, também há muitos deputados da Moselle e do Vic Mendes. Há pessoas de toda a França. Portanto, é chamar a atenção, escrever para eles, para fazer pressão e que haja pedidos, realmente.
Aliás, o melhor é irem, podem ir diretamente ao site da ADUPBA para terem o teor da petição. Hoje de manhã, às 11h27, tinham assinado 6.382 pessoas. É necessário, no mínimo, 7.500. Não sei o que é que as pessoas estão à espera. Mas, enfim, portanto, a ideia... Bom, se as pessoas escreverem, talvez fosse o ideal também que mandassem uma cópia para o site da ADUPBA, não?
Certo, então até para o meu e-mail, portanto o meu nome é Martine com E, Fraguas, em português diz-se Fraguas com acento no A, em francês não tem, martinefraguas@hotmail.com, também pode ser, para Nouvelle Aquitaine, coletivo da Nouvelle Aquitaine, e redigi esta petição também com uma professora da Universidade de Pau, Sofia Mendes Geraldes, e um professor de colégio também de La Rochelle, Nuno Paiva Santos, são os meus colegas de luta, e vamos continuar aqui na Nouvelle Aquitaine e também em todo o território nacional.
E nós aqui estamos para isso também, para dar a conhecer o vosso combate e esperando igualmente que haja pessoas aqui que façam essa carta aberta aos deputados, mas eu podia acrescentar carta aberta a outras pessoas, Martim de Fragoas, que trata-se pura e simplesmente aos presidentes da Câmara, porque o ensino elementar, como quis dizer, o ensino primário, eles também têm uma certa, têm voto na matéria, não é? Por que não também escrever ao maire de onde se reside?
Tem toda a razão, só que o ensino primário é da responsabilidade da coordenação do ensino, A diretora é Adelaide Cristóvão.
Adelaide Cristóvão, perfeito.
Para mim, eles fazem a parte deles. O problema não é tanto no ensino primário. Claro que podia ser melhorado a nível de horários. Quando se ensina uma língua das 5 às 6, é quase um castigo para os meninos, à sexta-feira. Mas isso também não se pode ter tudo. Agora, não, eu insistia mais para o Ministro da Educação, para os deputados franceses, porque o nosso combate é mais do ensino do colégio até a faculdade, não é? Também temos que falar do ensino superior. Não é? É do colégio até o ensino superior nas universidades.
E já agora que esse combate, nosso combate, é o combate de todos, é também chega às orelhas do Ministro da Educação de Portugal, ou melhor, talvez seja o Ministro dos Negócios Estrangeiros, porque quem diz ensino de português no estrangeiro, Camões de Negócios Estrangeiros, o Ministério da Educação Português, não é tido nem achado, mas enfim. Martim de Fragoas, muito obrigado e contamos no mês de setembro a voltarmos a falar no assunto e continuar a mobilizar, principalmente a comunidade, se querem portugueses aqui que se mobilizem também, acho eu.
Muito obrigada pelo convite.
Muito obrigado e até uma próxima, então.
Até a próxima.
Nós estamos a chegar tranquilamente às 13. Eu lembro, a Passagem Nível tem redifusão na noite de quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. E a esse propósito, ouço o que vai a seguir. Difusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 00:02. Este jingle, meus amigos, tem uma história que um dia deixo vamos contar. A partir do mês de setembro, vamos voltar aqui com o chamava Alfa e Nada Mais, com irmos até às caves da Rádio Alfa e a lembrar, porque a história da Rádio Alfa vão fazer 35 anos, de maneira que, através da história da Rádio Alfa, a história da comunidade portuguesa em França, a história também da França e não só, até de Timor-Leste, mas enfim, teremos tempo de começar a trabalhar e vai haver muito trabalho, como diz outro, subterrâneo, porque para fazer rádio não basta chegar aqui, abrir a boca, dar duas palavrinhas como se as coisas aparecessem todas feitas. Aliás, um padeiro sabe como é que é, que se levanta o muro, etc, etc, mas se esquecer o carpinteiro, bom, todos aqueles que trabalham manualmente sabem como é que é. Rádio
Alva. Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora da Passagem de Nível, no dia 10 de julho, eu lembro, Passagem de Nível com a redifusão na noite de quarta para quinta-feira, entre 0 e as 2 horas. Esta segunda hora é dedicada a sugestões para as férias, leitura, mas igualmente visita de uma exposição de pintura. Para já, leitura. Vamos falar de banda desenhada com dois autores, dos descendentes à procura das suas raízes e cada um com uma visão, não digo bem uma visão, mas pelo menos com uma procura diferente um do outro. Trata-se de Cyril Pedrosa, o título do álbum BD Portugal, edição Dupuis, e depois Olivier Afonso, Les Portugais, edição Arène BD. C'est parti.
Portugal, quand un retour aux sources imprévu devient renaissance. Commençons par parler de Simon Mucha. On en parlera du thé plus tard. C'était dessinateur BD qui était complètement perdu. Il a été qui finalement ?
Mais Simon, c'est beaucoup de moi. Enfin, je lui ressens beaucoup. Oui, il me ressent beaucoup. C'est un peu comme un alter ego en fait. C'est-à-dire que je m'en suis servi. Je lui fais vivre des choses que je n'ai pas vécues exactement. Mais pour parler de ce qui me touche de plus près autour de cette histoire familiale, cette histoire, et du lien que j'ai au Portugal, qui est un lien qui est partagé, je pense, par beaucoup de ma génération. de proximité et en même temps de grand éloignement. C'est-à-dire que c'est à la fois un pays que je sens vraiment à l'intérieur de moi et en même temps que je connais pas du tout. Donc c'est très curieux cette relation familiarité et d'étrangeté mélangée. Voilà. Et donc lui, il est animé par ça, traversé par ça. Il est animé aussi. Enfin, je pense qu'il porte avec lui du coup une espèce de vide. L'absence de, non pas du pays, parce que le Portugal est là, il existe pour toujours, mais plutôt l'absence de tout ce qui n'a pas été dit, transmis, tout ce qui n'est plus parlé dans sa famille autour de ça, de cette histoire familiale, de ce qui les relie. Et à partir du moment où il décide, en tout cas d'abord qu'il réalise qu'il a un manque, qu'il a un vide, et bien le vide il va essayer de le remplir, donc il se met en mouvement, et ce simple petit mouvement va lui permettre, en fait voilà, d'ouvrir un peu des portes, des fenêtres, des discussions, des voilà.
Et en même temps de donner un sens à sa vie en quelque sorte.
Oui, c'est vrai. De s'autoriser des choses, d'écouter ses désirs. C'est tout ça qui va s'autoriser à mettre en œuvre à partir du moment où il va se confronter à cette histoire-là.
À un moment donné, vous dites que ce n'est pas une autobiographie, mais ça y ressemble quand même. Revenons au siècle dernier, 1936, c'est le départ de votre grand-père, de vos grands-parents du Portugal, mais ça reste un peu flou, tous ces souvenirs-là, c'est comme s'il y avait des secrets de famille.
En fait, c'est pas des secrets de famille, je crois pas, en tout cas dans mon histoire à moi, et dans l'histoire de Simon, c'est pareil, c'est plutôt, c'est comme si on n'avait pas accordé assez d'importance à ces histoires-là, comme si on avait pensé que ça n'avait pas de valeur ou d'intérêt, qu'il n'y avait rien à transmettre. Je crois qu'il n'y a rien de particulier à cacher, c'est juste qu'on s'est dit, c'est des petites histoires de rien du tout, alors on va les oublier. Mon grand-père, lui, il est venu seul d'abord, effectivement, juste avant la guerre, en 36, et je pense que, sans doute parce que tous ses enfants, disons que deux de ses enfants sont nés en France et il a eu à cœur en fait qu'ils construisent leur vie ici pour des raisons, par exemple, que je ne connais pas. Je ne sais pas pourquoi lui a voulu si peu leur donner un lien avec ce pays qui est quand même le sien. Enfin, lui, il est parti, il avait une trentaine d'années, mon grand-père. Enfin, non, un tout petit peu moins. Je sais pas ce qui a fait qu'il a pas transmis ça. En tout cas, ils ont fait en sorte de se construire ici. Et du coup, c'est pas un secret, c'est simplement que cette histoire-là, elle était, moi je crois qu'elle a été vécue, enfin là c'est mon interprétation personnelle, presque comme un fardeau, comme quelque chose qui risquait de les retenir, de les empêcher de vivre leur vie ici, et qu'il fallait du coup la mettre de côté. Pas parce que c'était honteux, mais parce que ça n'avait plus de sens ici. Il fallait laisser ça derrière soi.
Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous avez fait ce livre, Portugal, je rappelle. C'est un rapport direct avec votre grand-père, avec ce que vous dites à un moment donné. Je crois que il y a des choses que vous, mais par exemple la date de son décès, il y a certaines choses qui vous gênent quelque part. Donc vous aviez besoin quoi de lui prêter hommage en quelque sorte.
En quelque sorte, oui, c'est vrai. C'est curieux parce que ce livre-là ne parle pas de son histoire à lui, ni de celle de mon père, ni de celle de mes oncles et tantes. Et en même temps, je pensais à eux tout le temps quand je faisais le livre. Et oui, c'est une façon de rendre hommage et puis de faire un livre, c'est faire un objet qui existe pour toujours en fait, qui est là et dont on peut pas faire comme s'il n'existait pas. Et je voulais essayer de faire quelque chose. Je voulais donner le meilleur de moi-même pour faire un bel objet, pour que ce soit comme quand on met des beaux habits à quelqu'un qui vient de décéder, par exemple, pour le magnifier en fait. Et ben voilà, je voulais essayer que ce soit le plus construit, le plus beau possible pour eux, pour partager ça avec eux. Et puis après voilà, j'ai eu à cœur de raconter une histoire et que cette histoire elle puisse être partagée avec tous, mais une de mes motivations c'était ça.
Apparemment, vous vous rappelez d'un voyage au Portugal, vous aviez 10 ans et vous êtes retourné 20 ans après pour participer à un salon de BD. Et je pense que c'est à partir de là en quelque sorte qui est née peut-être l'idée du livre.
C'est exactement ça. L'idée et l'envie, surtout, l'envie du livre. L'envie de parler de ça, l'envie de me confronter à cette histoire-là. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis pas allé au Portugal pendant une vingtaine d'années, et c'était là, quand je suis allé pour mon travail, en fait, comme auteur de bande dessinée invité dans un festival, c'était la première fois que j'y allais comme adulte. Et donc, je savais pas ce que j'allais y trouver. Moi, je pensais partir juste comme ça pour un week-end de 3 jours, voilà. Et en fait, j'ai retrouvé là-bas quelque chose que j'avais complètement oublié, mais qui m'était extrêmement familier. Luis Beira, enfin plein de gens que j'ai rencontrés là-bas, j'avais l'impression que c'était ma famille, quoi. entendre les gens parler, mais juste mais des choses simples, quoi. Mais le premier soir, quand je suis arrivé, j'étais à côté d'Alma, donc je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est une petite ville de banlieue, comme ça, qui est sur le littoral. Et j'arrive le soir, il y avait une pêche, enfin, il y avait des gens qui étaient en train d'acheter ce poisson sur la pêche. Enfin, c'était une espèce de bouffée, comme ça, de souvenirs, d'émotions, mais très, très forte. Et surtout de la sensation de relation intime avec les gens. Mmh. Alors que je les connaissais pas, je connais pas le Portugal, et je parle pas portugais, et donc c'était troublant de ressentir ça.
Mais à propos justement de ce ressentiment, ça se voit au niveau des dessins, au niveau des couleurs, parce qu'effectivement, quand vous êtes Simon, il ressent un certain nombre de choses, des rappels, des souvenirs. Votre trait, c'est plus le même. Les couleurs, c'est plus les mêmes. On dirait qu'on est on est dans une troisième dimension, en quelque sorte.
Oui, j'ai essayé de faire ça consciemment, de faire en sorte que le dessin, quand il est dans sa vie à lui, au départ, qu'il y ait une certaine forme de dessin, un petit peu terne, comme ça, un petit peu monochrome, et puis que quand il arrive au Portugal, ben là, c'est comme s'il y avait eu quelque chose qui explosait, en fait, à la fois dans plus de liberté, c'est-à-dire qu'il se met en mouvement, il bouge, et du coup, autour de lui, les dessins sont plus libres, les couleurs sont plus vives, c'est plus coloré, etc. Et puis parce que ça l'anime, en fait, c'est que d'un seul coup, là, il est dans quelque chose qui le touche profondément, il a du désir, il a envie de faire des choses, il a envie de rencontrer des gens, alors que jusqu'à maintenant, dans sa vie, tout ça, c'était un peu en panne, quoi.
Alors, il faut dire que vous avez passé 3 mois au Portugal en 2008, justement, 3 mois dans une maison. Quelle histoire, c'était les maisons du grand-père. Et là, je pense que vous avez dessiné, vous avez déjà avancé un petit peu avec le scénario. C'est une façon de, je sais peut-être pas le terme exact, s'imbiber un petit peu. Ça a été 3 mois plein.
Ça a été 3 mois plein au Portugal. J'ai passé un peu plus de 2 mois dans cette maison-là, donc qui se trouve du côté de Figueira da Foz, dans un village qui s'appelle Ousmach. Et puis quelques semaines à Lisbonne aussi, justement parce qu'à un moment donné, j'avais besoin de m'extraire de cet endroit où j'étais, du village, de la maison, prendre du recul sur ce que j'avais noté, écrit, et puis aussi ne plus être en permanence avec mes cousins, etc. Enfin voilà, pouvoir me mettre un peu à l'extérieur de ça. Mais par contre, j'avais besoin, et je sentais que ça me manquait, en fait, pour pouvoir avancer sur le livre. J'avais besoin de vivre là-bas, dans cette maison-là, et puis longtemps aussi.
Finalement, par rapport à vos livres précédents, on dirait qu'il y a un changement, il y a quelque chose. Vous êtes senti davantage libre, davantage inspiré, finalement, avec cette histoire du Portugal?
Oui, c'est vrai. En fait, le sujet m'a porté, en réalité, je crois. C'est-à-dire que j'avais envie de... Ça fait plusieurs livres que j'essayais comme ça, petit à petit, de m'autoriser de plus en plus de choses dans le dessin, dans la façon de raconter. Mais avec ce livre-là, parce que c'était cette histoire-là, et aussi parce que les éditions Dupuis m'offraient cet espace-là, ce cadre-là, j'avais presque une obligation, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais j'avais presque une obligation morale à me donner le plus de liberté possible.
Alors ça concerne vos méthodes de travail, apparemment vous avez changé cet nombre de choses, et vous avez dit aussi, grâce aux erreurs, j'ai pu faire des choses extraordinaires. Plus concrètement, expliquez-vous.
Parce que quand on dessine, enfin, on a un outil qu'on maîtrise bien, enfin le crayon, etc. On sait ce qu'on fait, on a une technique. Et le problème, c'est que parfois la technique, c'est très très bien, enfin c'est nécessaire, mais parfois c'est un enfermement, c'est-à-dire que ça nous enferme dans des habitudes, dans des tics, dans des trucs. Mais c'est pas propre. Enfin, je pense que pour les musiciens aussi, parfois doivent pouvoir ressentir des choses comme ça. Et donc moi je ressens le besoin d'aller dans des endroits où je n'ai pas l'habitude d'aller. Et c'est difficile d'arriver à faire ça spontanément. Comme c'est difficile d'ailleurs de décider d'être spontané. Donc il faut des prétextes, il faut des moyens pour se prendre par surprise, pour être pris au dépourvu. Et donc faire des erreurs, se tromper, c'est se retrouver devant soi avec une image qui ne marche pas avec la technique habituelle. Et donc il faut en faire quelque chose. Et là, c'est là je trouve qu'on trouve des choses, qu'on invente, qu'on... Mais c'est comme si, je sais pas, vous êtes au piano, puis vous faites un accord qui n'est pas l'accord de Fa majeur habituel, il se passe quelque chose d'un seul coup, il a une couleur particulière.
Et on joue avec.
Et on joue avec, on se dit, ah oui, mais en fait, je peux, avec mon Fa, là, je peux, si je mets un Mi ou un. Il se passe quelque chose, je la connaissais pas, cette couleur-là. Et ben là, c'est la même chose dans le dessin. C'est d'un seul coup, j'ai mis un trait de pinceau comme ça, et c'était pas du tout prévu, et en fait, c'est intéressant, je vais jouer avec.
Il faut dire que vous avez eu la collaboration d'un certain nombre de personnes aussi, et ça, je pense qu'il faut en parler un tout petit peu de ce travail-là, pour la couleur et pas seulement.
Alors, j'ai beaucoup de gens, en fait, m'ont aidé, soit ont collaboré au livre. Pour les couleurs, j'ai en particulier travaillé avec une coloriste qui s'appelle Ruby, qui a fait un travail qui était difficile pour elle parce qu'il fallait... elle a travaillé sur la partie centrale du livre. Le livre est construit en trois parties. Et donc, il fallait qu'elle arrive à s'insérer entre deux parties, donc qu'elle fasse le lien avec ce qu'il y avait avant et ce qu'il allait avoir après. Et en même temps, il fallait que ce soit un tout petit peu différent parce qu'il fallait que ce soit un point de vue particulier. Alors que c'était difficile, mais Romilly, c'est quelqu'un de très inventif. Elle est toujours partante pour essayer des choses. Donc, c'était une collaboration très, très intéressante et très riche. Et puis après, il y a plein de gens qui m'ont aidé. Il y a Sylvie Duvelleroy qui a relu les textes. Il y a Elder Westerlin qui en a traduit une grande partie, que j'avais rencontré là-bas à Lisbonne. Il y a José-Louis Bocquet qui a été très présent aussi pendant le livre, qui m'a accompagné, qui m'a soutenu beaucoup. Surtout au début où j'en avais besoin un peu comme ça, qu'on me dise, oui, vas-y, tu peux être confiant, c'est la bonne direction. Donc c'est curieux parce que c'est à la fois un travail solitaire comme ça de faire un livre, surtout comme celui-là, et en même temps on n'est pas seul du tout, il y a plein de gens autour. Et puis je vous parle même pas après de ce qui se passe une fois que le livre est terminé, qu'il faut le fabriquer, qu'il faut l'accompagner à l'extérieur. Ça participe énormément de la vie qu'il va avoir, en fait.
Alors il y a ce nombre de planches avec des textes en portugais. Alors quelque chose d'extraordinaire, c'est vrai qu'au Portugal, quand on se parle d'aujourd'hui, tout le monde a son portable collé à l'oreille. Mais dans le livre, on dirait que tout le monde chante.
Oui, parce que comme je ne parle pas portugais, au bout de 3 mois quand même là-bas, j'avais quand même réussi à avoir un portugais de survie, quoi, d'expliquer ce qui m'était nécessaire, mais je ne pouvais pas avoir une conversation avec les gens. Mais par contre, pour toujours, pour moi, le portugais, c'est un chant, c'est une mélodie, c'est une musique, en fait. Et c'est cette musique-là que j'ai retrouvée la première fois que j'y suis retourné. Donc c'est pour ça que je m'en suis vraiment... graphiquement, même, à chaque fois que je faisais parler les gens en portugais, c'est pour ça que je mettais de la couleur aussi dans leur... Parce qu'il y avait vraiment... Voilà, c'est une mélodie qui traverse même physiquement le personnage à un moment donné dans une case. Parce que c'est ça aussi une langue quand on... Je ne sais pas si c'est une expérience qui a pu être partagée par beaucoup de gens, de se sentir si proche d'une langue et en même temps de la connaître si peu. Voilà, c'est très curieux. Je connais cette chanson. C'est comme connaître une chanson par cœur sans en connaître les paroles. Voilà, c'est un peu ça.
Et à propos de paroles, à propos de mots, ça concerne la grand-mère. Simon, il se rappelle de l'accent de la grand-mère. Et à un moment donné, j'ai lu la phrase suivante. « L'amour et la honte, cela pourrait être la devise des familles des migrants. » C'est lourd, ça.
C'est le personnage de Simon qui ressent ça.
Tout à fait.
Ouais, ouais. C'est quelque chose que j'ai ressenti. Cette espèce de... Ouais, il y a un amour très fort, très puissant, enfin, comme il peut y en avoir dans toutes les familles. Un attachement, surtout aux grands-parents. Enfin, c'est une relation particulière, la relation plus petits-enfants-grands-parents, je trouve, dans une vie. C'est quelque chose de très fort. Et en même temps, le malaise qu'il y a à voir que nos grands-parents ou que nos parents ne sont pas comme les autres. Qui parlent pas bien, qui ont un accent bizarre, qui s'habillent pas comme les autres. Et quand il y a eu des moments dans ma vie où moi j'arrivais pas à porter ça, à l'assumer, à me sentir bien avec ça. C'est plus le cas maintenant. Maintenant je suis heureux et je suis même fier. Enfin c'est pas fier de ça, mais ça fait partie de ma vie et tout ça. Mais quand j'avais une dizaine d'années par exemple, mon père m'a demandé si je voulais aller apprendre les cours de portugais à l'école primaire. Et je lui ai dit non, mais instantanément, je voulais absolument pas. Rentrer dans la catégorie des enfants de portugais qui vont au cours de portugais, c'est quelque chose qui était douloureux pour moi à ce moment-là. C'est difficile de dire ça parce que j'en suis pas spécialement fier, quoi. C'est pas très glorieux d'avoir ressenti ça, mais c'est une réalité. Et en même temps, j'adorais mes grands-parents, j'adorais mes oncles et tantes, mais j'avais des sentiments d'amour et de malaise en même temps.
Donc ça veut dire que maintenant, avec Portugal, Pedrosa, il a retrouvé la paix.
Ah oui, enfin la paix. En ce qui concerne cet aspect-là de ma vie, oui. Voilà, il y a 2-3 trucs à travailler encore par-ci par-là. Mais dans mes relations, en tout cas, oui, avec ce pays-là et avec les gens qui me sont chers là-bas, oui, vraiment. Merci.
Mes amis, on va revenir à 1967. Si je vous dis o salto, passaporte coelho, comme il disait à l'époque. Tout ça au sujet pour rappeler, parce que la base départ est là, les Portugais. D'Olivier Afonso et de Chico, c'est pas vraiment son nom, mais enfin, c'est une BD publiée par Les Arenas. Mais revenons en 1967. c'est Louis Chevrier qui joue et qui siffle aussi. Ça, c'était la bande originale du film Où Salt de 1967, qui a été réalisé par Christian de Challonge. Olivier Afonso, merci d'être avec nous. Alors, les Portugais. Une bande dessinée faite avec Chico, en réalité, c'est Aurélien, c'est ça?
Oui, il s'appelle Aurélien.
Je vais vous demander le pourquoi. Le pourquoi, parce que bon, vous êtes d'origine portugaise. Et pendant longtemps, vous avez dit, bon, mais c'est quoi d'être d'origine portugaise, d'avoir deux cultures, etc. Et cette BD, c'est une façon de revenir un petit peu aux origines, de savoir où est-ce que vous venez et qu'est-ce que vous êtes exactement ou pas?
Oui, complètement. En fait, moi, j'ai voulu faire cette BD pour essayer de laisser une trace un peu... pour essayer de parler de l'histoire que moi j'avais du mal à comprendre, j'avais du mal à savoir ce qui s'était passé, etc. Donc j'ai commencé à faire des recherches, parce que j'entendais évidemment des anecdotes de mes parents, de ma famille, tout ça. Donc j'ai commencé à faire des recherches et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant d'en faire une histoire. Mmh. Et surtout une histoire qui permette à beaucoup de gens d'essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et une histoire accessible. Et au début, j'ai écrit une histoire qui est inspirée évidemment de faits réels, mais qui est avant tout une fiction. Pour pouvoir parler, pour que ça devienne un peu universel, pour que tout le monde s'y retrouve. Et à la base, j'ai écrit cette histoire pour en faire un film.
Oui, vous dites aussi, quelque part, je pense que les Portugais sont trop pudiques pour parler de leur vie. C'est quoi, ils sont vraiment pudiques, finalement, ils se disent qu'ils ont honte, et pourtant, ils ne sont pas rien, ils n'ont pas à avoir honte.
Je ne sais pas, parce que je peux pas vraiment parler pour à la place de tout le monde, mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est... évidemment, peut-être que c'est pour des personnes, ce serait une forme de honte, mais moi, je trouve qu'il y a une certaine pudeur, parce qu'on ne parle pas forcément de ce qui nous fait souffrir. Moi, c'est ce que j'ai ressenti dans ma famille. À chaque fois qu'on parle d'histoire, et même si elles sont tristes, il y a toujours une espèce de sourire, comme de la moquerie, comme si c'était presque un défi aux épreuves passées difficiles. Et moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une sorte de narration très positive et toujours une envie de raconter ça en gardant le côté positif des histoires. Donc moi, je traduis ça comme une espèce de pudeur, parce que je pense qu'au bout d'un moment, les gens aussi, ça leur appartient, c'est des histoires qui leur appartiennent, quoi.
Alors, un peu plus tard, on parlerait de à qui appartient cette histoire. Bon, alors, Mario, c'est lui, 18 ans, il se trouvait dans un porte-bagages d'une voiture avec un passeur, et le passeur le lâche dans la nature. Et donc, et à partir de là, bon, c'est là que ça démarre la BD, et à partir de là, il y a tout un tas de choses qui sont passées. Je pense que la plupart de nos auditeurs, tout au moins les plus anciens, peut-être qu'ils auront raconté leur histoire à leurs enfants, et pourquoi pas qu'ils doivent les raconter aussi aux petits-enfants. Et après, c'est tout un périple, hein, finalement, une fois qu'on est à la frontière espagnole, franco-espagnole, il y a tout un périple avec tout un tas d'opportunistes. Mais entre-temps, il y a Nel qui arrive. Alors Nel, c'est un compagnon de route, finalement, pour Mario, mais c'est quelqu'un de spécial.
Oui, en fait, Nel, pour le coup, c'est un personnage complètement fictif. Il s'est inspiré de beaucoup de choses, beaucoup de personnes, de moi aussi. C'est-à-dire que des questions que je me posais, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est face à on peut se poser la question de savoir quel chemin on va prendre. Est-ce que c'est le chemin de la légalité? Ou est-ce que c'est le chemin de l'illégalité, des magouilles, des astuces? Et de façon un peu très illégale de pouvoir vivre sa vie et gagner sa vie. Mmh. Et donc c'est un peu autant Mario est inspiré de mon père et surtout de son caractère et de ce côté très toujours doux et à l'écoute, presque silencieux et très laconique, c'est-à-dire qu'il ne parle que quand il faut parler. Je devais avoir un personnage qui était son opposé.
Complètement. Ouais.
Voilà. Mmh. Qui peut être aussi un atout majeur quand Mario, lui, se trouve face à des problématiques ou parfois où il est complètement dans l'erreur. Parce que même dans un pendant négatif, il y a toujours un peu de positif.
Oui, d'ailleurs, il suffit de... il y a quelques... Par exemple, il a accepté un travail, c'est dur, c'est mal payé, etc. C'est ça, tout ce qu'on veut. Bon, mais il dit, bon, écoute, c'est peut-être mieux que... Bon. Alors, justement, il y a le salt, donc passer la frontière. Après, bon, il faut arriver... d'ailleurs, même avant d'arriver à Paris... Ils tombent dans un endroit complètement perdu. On leur offre du travail, mais quel travail, des conditions de vie vraiment comme ça. C'était du bétail, mais après, on trouve tout. L'arrivée au bidonville. Les passeurs sont des tricheurs, des voleurs. Alors, les patrons voyous, et là, c'est un truc quand même extraordinaire, le bidonville, travailler sans papier, l'inspection du travail,
qui va sur les chantiers, alors avec un petit enveloppe, on ferme les yeux. C'est-à-dire, c'est qu'avec votre BD, vous arrivez à retracer finalement, disons, le parcours de dizaines et dizaines de milliers de Portugais.
Oui, l'idée c'était ça, c'est d'être universel et de raconter ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive dans une situation où on est en demande et on est fragile, bah, on est confronté à des gens qui vont utiliser cette fragilité. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à l'époque, tout était normal. Et moi, la phrase que j'entendais beaucoup quand j'étais petit, c'est « bah, c'était comme ça ». C'était comme ça. C'est-à-dire que le racisme, c'était comme ça. Parce qu'à l'époque, on l'envisageait pas comme du racisme. Moi, j'ai vu, quand j'étais petit, je voyais des gens tâter les muscles de mon père, taper dans son dos comme si c'était un animal, un cheval de trait. Et moi, quand j'étais petit, j'étais fier parce que j'ai l'impression que c'était pour dire que mon père était fort, costaud, etc.
Et d'ailleurs, on regardait même les dents comme les chevaux.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il fallait regarder s'ils étaient en bonne santé. Et ça, c'est quelque chose qui a pu choquer des gens, dire « mais c'est pas possible, ça se faisait pas ». Mais si, ça se faisait, parce que c'était quelque chose de normal. Ça se faisait parce que c'était normal, c'était pour voir si les gens étaient en bonne santé. Et on se gênait pas pour leur demander de retirer leur chemise pour voir s'ils avaient été musclés, s'ils allaient supporter le travail, etc. etc.
Revenons un petit peu à Nel. Parce que, bon, vous parlez parce qu'il faisait des trafics, etc. etc. Mais dans les bidonvilles, il y avait des Portugais qui louaient des baraques, il y avait des Portugais qui avaient la petite épicerie, etc., etc. Bon, celui-là, il faisait des trafics, il vivait aussi d'exploiter les autres.
Évidemment. Et ce qui est intéressant avec cette bande dessinée, c'est que ça a permis à des gens de s'exprimer, à raconter. Parce qu'il y a des gens qui arrivaient et qui n'avaient pas spécialement de compétences. Et ils se sont dit, tiens, je vais utiliser les compétences des autres. Donc c'est une façon de travailler. Mais ils le faisaient, à l'époque, on peut considérer que c'était exploiter la misère des autres. Mais eux aussi, quelque part, ils étaient dans une misère et ils ont essayé de trouver des solutions. Et c'est pour ça que moi, je ne veux pas leur jeter la pierre. Et c'est pour ça qu'il y a un personnage aussi que je développe et que je raconte. Et parce qu'on est tous confrontés à des problématiques et on essaye de s'en sortir comme on peut. Et c'est une réalité, ça c'est sûr. Il y avait des gens qui ont exploité cette misère et qui étaient d'origine portugaise aussi.
Ça existe encore. Hein.
Oui.
Avec les travailleurs qui viennent ici... avec des conditions de travail qui ne sont pas très légales en plus. Bon, ça continue aussi, cette exploitation. Oui. La BD. Les couleurs, quelque chose ça m'a étonné, c'est que ce n'est pas sombre, mais enfin, il y a un gris. On sent comme si les couleurs de l'album... Bon, ça c'est Aurélien, n'est-ce pas?
Non, c'est Émilie Rouge, c'est une coloriste en fait.
C'est coloriste. Ouais. Bon, alors, pourquoi le choix de ces couleurs, à part la couverture, hein, pourquoi le choix de cette couleur sombre? C'est parce que c'est pour renforcer un petit peu le récit.
Alors moi, à la base, de toute façon, je voulais une bande dessinée colorée parce que la couleur appelle est plus comment dire, c'est un appel, c'est une invitation, c'est plus facile parce que le noir et blanc, il y a un côté un peu dur et ça renforcerait le côté sombre des histoires. Après, c'est vrai qu'il y a des teintes un peu grises, un peu plus pastel, etc. Moi, les récits que j'entendais, c'était beaucoup, ça se passait dans des conditions difficiles. Il y avait du froid, il y avait la neige, il y avait la pluie, il y avait la boue dans les bidonvilles. Il y a le béton aussi, le béton qui est très gris. C'est une ambiance qui est très grise, en fait, tout ça. Et les touches de couleur sont essentiellement sur certains personnages. Et après, quand on racontait... Et les seuls moments de distraction, ils les passaient quand ils ne travaillaient pas. C'était la nuit. Donc la nuit, elle était éclairée par les bougies, par les lampes à pétrole dans les bidonvilles, mais aussi Paris. Paris, c'est une ville qui est très lumineuse, et c'est l'électricité, etc., etc. Et donc, le choix des couleurs, c'est avant tout pour ça.
À propos de béton.
Ouais.
Bon, parce que les travailleurs, ils étaient clandestins, donc ils n'avaient pas de papier. Et à un moment donné, Mario, il pose la question, je me souviens plus, c'est Tonio, je ne sais plus. Ben, c'est vrai qu'il y a des compatriotes à nous qui ont été coulés dans le béton. Bon, pourquoi ça apparaît
Alors moi, c'est un truc que j'entendais beaucoup. J'entendais beaucoup quand j'étais petit. J'entendais des histoires où justement, il y avait des personnes qui disparaissaient, qui tombaient dans le béton, etc. Et comme c'est quelque chose qui m'avait marqué étant petit... On m'avait raconté même que il y avait au moment où on coulait des dalles de béton, les machines allaient tellement vite que si quelqu'un tombait dedans, on pouvait pas arrêter les machines. Donc voilà. Et comme cette histoire, j'ai voulu que ça soit une histoire, une aventure pour que ça parle aux gens et que ça soit pas un récit d'anecdotes. Et ben j'aimais bien cette histoire qu'encore qui est ce côté qui rappelle un peu les business, les histoires de gangsters ou les malfrats couler les gens dans le béton quand ça allait pas, etc. Et donc j'ai essayé à la fois mélanger cette histoire que j'entendais quand j'étais petit et cet univers de films dans lesquels on entendait des gens couler dans le béton.
Alors, au milieu de tout ça, pratiquement, bon, un petit peu plus que le milieu, 25 avril 1974. Alors là, ça a été, bon, on voit des images, Mario que, bon, qui ne comprend pas ce qui se passe, etc., etc., mais on sent dans votre scénario qu'il y a des Portugais qui se disaient, mais c'est quoi le 25 avril? Qu'est-ce qui s'est passé au Portugal? Où est-ce qu'on en est?
Mais encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment au courant de ce qui s'est passé. Même moi, j'ai dû faire des recherches parce que je voulais pas raconter de bêtises. J'ai été surpris de me rendre compte qu'il y a des gens qui savaient pas que Salazar était mort en 74. Et que c'était le régime de Salazar, en fait. Et toutes ces informations, en fait, je me suis rendu compte que, au final, moi le premier, parce que moi j'ai fait des recherches, mais il y a plein de gens qui n'étaient pas vraiment au courant de ce qui s'était passé, quoi. Et qui le sont toujours pas.
Et les gens qui, à l'époque, ils avaient peur. Hein.
Non, et en plus, les informations, c'est pas comme maintenant. À l'époque, pour aller chercher les informations, il fallait quand même y aller, quoi. Parce qu'on trouvait pas les informations aussi facilement que maintenant.
Revenons au personnage Yodessa de Chico. Quelque chose que j'ai trouvé étonnant, c'est que, bon, alors, Nel, alors lui a un visage en nez pointeux, toujours avec la cigarette avec, il y a toujours la fumée. Mario, cheveux longs, mais enfin, son visage, il est pas si, on a du mal à le cerner, mais il y a quelqu'un qui a des traits très fins. C'est la seule personne, c'est Eva.
Oui,
ça a été exprès, ça.
Ouais, c'est un personnage qui m'a inspiré de ma maman, donc avec Chico, on avait très envie de faire un personnage très qui tranche avec les autres, justement, avec des traits fins, etc. Et ma mère est quelqu'un de très très vive, très nerveuse, et c'est très fin, raconte ça, mais en même temps c'est très beau. Et moi je voulais raconter cette beauté, ce contraste aussi avec Mario, qui a des traits plus solides, plus fermes, avec un nez plus fort, etc. Et oui, évidemment, c'est un gros clin d'œil à ma maman, et je voulais qu'elle soit élégante et belle, quoi.
Ouais, d'ailleurs, c'était elle la seule qui a les pieds sur terre. C'est le cas de le dire, les pieds bien
ancrés au sol. Ouais.
Ancrés au sol.
Ouais,
ouais.
Ouais, c'est vraiment deux personnages aussi. Mes parents, c'est amusant parce qu'ils se complètent, mais ils sont très différents.
Et c'est ça.
c'est ça la complémentarité, ouais, tout à fait.
La naissance, bon, c'est votre naissance. Bon, ma foi, ouais. Que voyons pas. Mm-hmm. Parce que Mario, c'est le prénom aussi de votre papa, je crois.
Ouais.
Et alors, vous arrivez à la clinique, déjà, j'ai l'impression que vous avez été reçu un peu n'importe comment, mais avant de rentrer dans la chambre, et de voir votre enfant, il y a des infirmiers, je crois, qui se baladent dans le couloir. Alors, ils reprennent un dessin qui est paru, journal L'Équipe, quand l'Olympique de Marseille a été éloigné, bon, là, je pense que c'est la Ligue des Champions, un truc comme ça, par les Portugais de Benfica. Vous vous rappelez exactement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il disait?
Alors, je me rappelle pas, mais je pense que ça peut être assez proche.
Non, mais sinon,
allez-y.
Alors, un Portugais, quand il est jeté du ventre de sa mère,
c'est ça.
S'il reste collé au mur, il est maçon. Mm-hmm. S'il tombe par terre,
il est carreleur. Ouais, c'est, en fait, moi, j'ai voulu faire un clin d'œil à tout ça parce que je me suis rendu compte que, comme moi, il y avait beaucoup d'enfants, d'immigrés, et même des immigrés tout court, qui entendaient toutes ces histoires. Et nous, on est condamnés à sourire et à en rire quelque part. Et je voulais que, justement, Mario, aille retrouver son enfant qui venait de naître auprès de sa maman, donc sa femme, et que, justement, cette histoire lui glisse dessus. Et qu'ils s'en fichent, en fait. Que ça soit quelque chose qu'on a vécu et qu'on accepte. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est très ouvert. Je pense qu'on peut rire de tout, etc. Mais à partir du moment où ça blesse les gens, il faut faire attention, quoi. Et là, moi, j'aime bien ce côté désinvolte et complètement indifférent à ces blagues qui sont pas drôles, au final, quoi.
Vous croyez que c'est fini, là, les taux sur les morues?
Non, c'est pas fini.
La concierge, le maçon.
Non, c'est pas fini, mais j'ai l'impression que quand même, que c'est un peu moins fort que quand j'étais petit. Parce que maintenant, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une nouvelle génération, on souffre moins, mais c'est à eux qu'il faudrait demander. Mais c'est sûr que les stéréotypes ont la dent dure.
Vous êtes d'origine portugaise quand même, donc
oui, mais je parle des gens plus petits que moi. Parce que moi, je l'ai vécu étant petit. Et c'est vrai que c'était pas cool, c'était pas agréable.
Non, mais avec vous, on avait peur, mais votre sœur, non.
Alors ma sœur, ouais, m'a raconté qu'elle avait des copines qui préféraient dire qu'elles étaient italiennes ou espagnoles que portugaises, parce que ça passait mieux. Mais c'est vrai que c'est quelque chose dont beaucoup de gens ont souffert. Et je voulais en parler, justement.
Olivero. Bon, comme d'hab, pour ceux qui ont eu des enfants, l'enfant, quand il naît, bon, si on a la chance d'être avec la maman au moment de l'accouchement, les choses sont plus faciles parce qu'on est sur place. Autrement, quand on va voir l'enfant, il y a l'infirmière qui se pointe. Bon, alors, résistivé, bon, il faut qu'on déclare l'enfant à la mairie, etc., etc. Et l'infirmière demande, alors vous avez choisi un prénom? Alors il y a un qui apparaît, Oliverio.
Oui.
Bon. L'infirmière regarde, bon ben, Oliverio, écoutez, de toute façon, c'est à vous de décider, mais pourquoi pas l'appeler Olivier?
Ben en fait, oui c'est ça, parce que moi, comme beaucoup de gens, en fait, il y avait cette volonté de s'intégrer dans un pays. Et la question, c'est pas. En fait, je parle de cette fin qui est vraiment une vraie fin et qui est vraiment pas ce qui s'est vraiment passé. Et en fait, la question de savoir pour l'intégration, est-ce qu'on ne va pas plutôt lui donner un prénom français pour ce qui s'intègre plus ? Et c'est une vraie histoire. Et ce qui est dingue, c'est que ça fait écho à en train de se passer dans les actualités avec ce que racontent certaines personnes que je nommerai pas, etc.
Non plus.
Et c'est arrivé à plein de gens. D'ailleurs, hier, j'ai fait une dédicace. Il y a un monsieur qui m'a raconté, qui n'avait pas lu le livre, qui m'a raconté cette histoire qui lui concernait lui aussi. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est arrivé dans la déclaration en France, mais aussi au Portugal. C'est-à-dire, au Portugal, il me demandait un prénom portugais. Ce qui fait que pendant longtemps, j'étais Olivier en France et Oliverio au Portugal.
Alors, je me permets quand même de lire, hein, parce que bon, je peux le dire par cœur, justement, Mario et Eve se posent la question, mais Olivier, je sais pas quoi, mais par rapport au Portugal, on n'a pas de photos, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Mais la conclusion, mais on peut raconter, on a des histoires à raconter, on peut raconter des histoires. C'est ça le fondamental.
Eh bien, c'est le but de ce livre. C'est qu'en fait, les gens, ça les invite à raconter leur histoire et que ça puisse ouvrir des discussions et raconter leurs histoires à leurs enfants, à leur famille, pour que nous aussi, on arrive à les transmettre.
Estamos na reta final desta emissão do domingo, dia 10 de julho, e para férias nada melhor do que ir visitar uma exposição. Exposição que está presente até o dia 30 de outubro na Maison Caia Bota em Er, Modernité Portuguesa, uma exposição que reúne os melhores artistas portugueses, e que muitos deles desconhecidos, aliás, aqui em França, e um trabalho que exigiu muitos esforços, nomeadamente de Valérie Dupont-Aignan, que é diretora da Maison Caia Bota.
Oui, c'est vrai. Alors là, je suis très contente d'avoir pu organiser avec la municipalité de Hier, monsieur le maire Olivier Clodon, et avec la commissaire Anne Bonin, qui a fait aussi ce travail de recherche et d'écriture formidable, d'avoir pu organiser cette exposition dans le cadre de la saison France-Portugal 2022, parce que ces échanges croisés qui ont eu lieu entre les artistes qu'on présente dans l'exposition portugais, mais qui ont vécu aussi à Paris, au Portugal, et leur histoire entrait totalement dans le propos de la saison croisée France-Portugal. Et c'est pour ça que nous avons tenu à l'organiser, malgré la difficulté, je dois dire, des années Covid et de tout ce qui s'en suivait. Les institutions portugaises nous ont vraiment soutenus, notamment la fondation Calouste Gulbenkian, le musée du Chiado, la fondation Arpad Senes Vera da Silva, la fondation Ididio Pino, pour ne parler que des institutions portugaises et aussi, bien sûr, des musées d'art moderne à Paris. Voilà, donc c'était important pour nous de montrer tous ces artistes. Parce que c'est vrai, vous avez dit qu'ils étaient méconnus, et ils sont peut-être méconnus en France, pas tous, hein, parce qu'on connaît quand même Amadeo de Souza Cardoso maintenant, qui a eu une belle exposition
au Grand Palais.
Au Grand Palais, on connaît bien sûr Vera da Silva et son mari Arpad Senes. Mais beaucoup d'autres artistes que les touristes français découvrent sûrement au Portugal ne sont pas connus suffisamment pour nous en France.
Alors, vous avez écrit « Le dernier chœur européen avant la mer ».
Oui, c'est « Le dernier chœur européen avant la mer », c'est un extrait d'un texte de Amada qui me semblait très beau, parce que ce modernisme, enfin l'histoire de ce modernisme qui s'est constitué entre le début du XXe siècle et les années 58-70, c'est l'histoire du modernisme au Portugal, mais il s'inscrit aussi dans une histoire complète du modernisme et de l'histoire de l'art. Et pour ce qui est du Portugal, il a toujours regardé vers la mer. Au-delà aussi, on connaît son passé glorieux et voilà, toutes les grandes découvertes qu'il a pu réaliser. Et en même temps, Pessoa et ses compagnons de route, si je puis dire, Sacarnero et Pessoa, étaient très portés aussi sur le cosmopolitisme européen et au-delà. Et donc, ce vers m'a touché quand je l'ai découvert et je trouvais que c'était vraiment le Portugal qui est au bout de l'Europe, mais qui en même temps qui va au-delà. Voilà.
Cette expo, on peut la situer dans le temps et dans l'espace. Est-ce que dans le temps, ça va depuis le début du XXe siècle jusqu'aux années 80. Il y a une constante dans tout ça, c'est que tous les artistes qui sont représentés, ils ont plus ou moins à voir avec la France et surtout avec la ville de Paris.
Oui, absolument. Alors, on dit que à cette époque, les Portugais voulaient savoir ce qui se passait dans leur village, mais aussi à Paris. C'est un petit clin d'œil parce que Paris était au début du XXe siècle, comme vous le savez, la capitale internationale de l'art. C'était l'avant-garde. Cette période avant la Première Guerre mondiale était très très féconde. Les jeunes bouillonnaient. Bon, chacun pour aussi des contextes historiques ou locaux différents, mais les artistes portugais qui ont regardé l'avant-garde ont eu envie de venir à Paris. Et je pense notamment dans le premier modernisme, enfin la première phase du modernisme portugais, à Amadeo de Sousa Cardoso, qui est vraiment venu à Paris et qui s'est présenté tout simplement aux Delaunay, qui étaient les artistes modernes à l'époque à Paris, en disant « Bonjour, je suis le peintre portugais Amadeo de Sousa Cardoso ». Voilà. Et lui-même a effectué énormément de recherches artistique, il s'est inspiré, il s'est nourri de toutes les avant-gardes qui existaient déjà et qu'il découvrait, mais il a aussi créé sa propre expression. Et d'autres artistes aussi ont été attirés par Paris, comme Almada Negreros, bien sûr. Viana un peu tardivement, mais vous savez que le Pessoa, qui était un peu la figure tutélaire de ces artistes-là à Lisbonne, était très en correspondance avec Mario de Sacarnero, son ami et poète aussi, qui vivait à Paris lui-même, et ils échangeaient énormément. C'était des petits cercles, en fait, de poètes, d'écrivains, d'artistes qui se nourrissaient les uns les autres et qui ont créé dans la fougue de leur jeunesse des œuvres absolument fantastiques et très joyeuses. Et je crois que c'est ça aussi la force de cette exposition, c'est de montrer ces œuvres d'artistes jeunes qui vivent comme ils souhaitaient le faire, c'est-à-dire de toutes les manières, de toutes les, le plus vite possible et le plus intensément possible. Et avec des artistes comme Santarita Pintor aussi. Voilà, c'est de très belles rencontres entre tous ces jeunes.
Oui, sans oublier un certain nombre d'artistes qui ont été forcés à l'exil. Bon, on a parlé de Vieira da Silva, Mario Cesarini, Antonio da Costa, justement. Alors, bien entendu, bon, on a, et tout à l'heure, vous avez parlé de Mateo Sousa Cardoso. Il y a des gens qui disent, bon, des mauvaises langues, hein, que Picasso s'est beaucoup inspiré du travail de Mateo Sousa Cardoso. C'est vrai qu'il est mort très jeune à cause de la peste. Mais enfin, c'est une autre histoire. Alors, une petite question quand même pratique, Madame Valérie Dupont-Aignan. Alors, unir tous ces œuvres. Bon, il y a des assurances, il y a tout ça. Bon, je sais que de la part des musées portugais, il n'y a pas eu de problème, mais ça, du point de vue financier, c'est pas évident. Parce qu'en même temps, je crois que c'est la première fois qu'on a une expo comme ça, et pendant plusieurs mois, qui réunit tout un tas d'artistes plastiques portugais. C'est la première fois en France qu'on a un panorama un petit peu, non?
Oui, absolument. C'est, vous avez raison de le souligner, parce que là, on a parlé du premier modernisme, mais les autres phases avec Vieira da Silva, Arpad, Zenet, et puis voilà, Cesarini et da Costa qu'on présente. Et c'est la première fois qu'on les réunit tous ensemble et qu'on écrit leur histoire tous ensemble. Et je crois que c'est même la première fois en Europe, parce que ça a été fait à la Fondation Gulbenkian sur une partie. Mais là, la Fondation Gulbenkian nous disait même que c'était un peu une exposition événement, parce qu'on donnait l'idée de ce modernisme qui s'est construit, et de cette belle histoire qui s'est construite. Alors, belle histoire, c'est vrai, pas toujours très facile, parce qu'il y a eu des exils. On est quand même entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est une période assez difficile. Il y a aussi des difficultés au Portugal, historiques. Enfin, voilà. Donc, Mais cette ferveur, on la ressent dans cette exposition, parce qu'on a, on a voulu mettre un peu le paquet, c'est vrai.
C'est le cadre.
Et en même temps, bon, c'est, c'était une histoire qui était importante à raconter. Et bon, vous savez que dans la région, on a quand même beaucoup de personnes qui sont lusophones. On a le prix de la lusophonie qui est souvent décerné au centre culturel à Hyères. Donc voilà, ça nous a donné aussi l'envie de partager cette histoire que les Français de souche ou que même ces personnes-là ne connaissent pas forcément bien. Et nous, ça nous a fait vraiment beaucoup de bien de l'organiser parce que c'était des moments joyeux.
Madame Valérie Dupont-Aignan, je vous remercie. Et je vous remercie également pour le catalogue. C'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il y a tout un tas de textes qui mettent dans le, comment dire, que, quand ils parlent des artistes, on voit aussi dans, à quelle époque ça se passe, qu'est-ce que ça représente, et ça, et tout ça, c'est un travail extraordinaire, et merci également à la commissaire de l'exposition, parce qu'elle a fait un bon travail.
Oui, et c'est en portugais aussi, il est traduit en portugais le catalogue, il est pris là.
C'est vraiment voilà. Extraordinaire, merci.
Si madame. Je peux juste ajouter 30 secondes, on aura un cycle de conférences autour de l'exposition avec M. Pillier autour de Pessoa, M. L'Église Costa, et puis la projection du film sur Amadeo de Sousa Tardoso à la rentrée, et une journée du patrimoine aussi, un après-midi de fado, donc voilà, suivez-nous sur maisoncaillebotte.fr.
maisoncaillebotte.fr em hier nem mais de menos essa exposição Modernité Portuguesa está patente ao público até o dia 30 de outubro e vale a pena até ir porque é um parque imenso e para que as costas de Ramar tem lá o lago e isso tudo sem esquecer todo o resto, porque a cultura faz parte da nossa alimentação, é espiritual, é cultural, mas sem cultura não seríamos nada. A prova está no regime que tentou impor um senhor que se chamava Salazar. E, aliás, o tema desta emissão, como puderam ver, à volta inteiramente das comunidades, aqui nesta exposição de pintores. Muitos deles estiveram aqui exilados também em França, de maneira que é o tema central desta emissão. Trata-se da última edição da décima temporada de Passagem Nível, mas evidentemente que eu tenho que voltar uns aninhos atrás, em setembro de 2012, porque foi com Carlos Vieira que se prestou a estar aqui connosco, Carlos Vieira, que, de quem eu saúdo a memória, teve a infeliz ideia de nos deixar há um certo tempo a esta parte já. Emissão que pôde continuar depois disso, graças à presença e à ajuda igualmente do Manuel Alexandre, há que não o esquecer. Obrigado aos nossos ouvintes e a todos os intervenientes, os convidados, e contamos a regressar em princípio, em princípio, como dizem os franceses, sabem o que isso pode significar, no dia 4 de setembro para a 11ª temporada, já que o tema foi a imigração, foi as origens. Manuel Ferreira, eles bem-ajam e boas férias e tenham o pé ligeirinho no pedal do acelerador.
Eilos que partem, novos e velhos, buscar a sorte noutras paragens, noutras aragens, entre outros povos. Eilos que partem, velhos e novos, eilos que partem, velhos e novos. Eilos que partem, olhos molhados, coração triste, a saca às costas, esperança em riste, sonhos dourados. Eilos que partem, olhos molhados, eilos que partem, olhos molhados. Dia, ricos ou não, contando histórias de lá de longe, onde o suor se fez em pão. Virão um dia, ricos ou não, virão um dia, ricos ou não. Lará, 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 rari, lará, lará, rari, lará, lará. La-ra-ra-ra-ra, la-ra-ra-ra-ra.
verão, um dia recursorão, contando histórias de lá de longe, onde o suor se fez em pão.